l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Le jeudi, vous le savez, c'est écologie. On grenouille, on rampe, on pousse, on étend nos racines, on sautille, animal et végétal cohabitent dans cette émission, surtout quand c'est Bretagne vivante qui vient comme aujourd'hui. Il y a peu de plumes, de poils, de cellules photosynthétiques, mais aujourd'hui plutôt des écailles. Quand nous recevons surtout l'herpétologue, le spécialiste amphibien et reptile Stéphane Huiza et son comparse Lucas Gauvin en service civique à Bretagne Vivante. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a parlé déjà du crapaud, enfin d'un des crapauds, hein, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. On va parler aujourd'hui d'une des vipères. Et je suppose qu'il y a beaucoup de vipères en France, enfin, en tout cas quelques-unes.
Oui, quelques-unes, pas énormément. Il y a quatre vipères en France. La plus largement distribuée, c'est la vipère aspic, mais qui s'arrête à peu près au niveau de la Loire.
Donc il n'y en a pas en Bretagne, en gros.
Bretagne administrative, non. donc au-dessus, et nous, on est concernés donc, par la vipère dans le Finistère, par la vipère pelliade, dont on va largement parler aujourd'hui. Et puis il y a deux autres vipères qui ont des distributions très réduites. Il y en a une dans le Pays Basque, qui est une espèce jumelle de la vipère pelliade, et qui s'appelle la vipère de Séouane. Et il y en a une autre sur les massifs calcaires des Alpes du Sud, en altitude, c'est la vipère d'Orsini, qui se nourrit de criquets.
Et il y a des endroits où il n'y a pas du tout de vipère en France, alors, j'imagine.
Oui, parce que comme la vipère aspic n'est pas au nord de la Loire et que la vipère pelliade y régresse, il y a plein de zones où il n'y a plus de vipères en France, notamment dans la partie nord du pays. Oui.
Alors, cette pelliade déjà, est-ce qu'on peut déjà faire un point sur la confusion, toujours possible, entre les vipères et les couleuvres ou d'autres serpents, mais enfin bon, c'est plutôt ça en général la confusion.
Oui. Alors, il y a des critères simples, en fait, mais qui sont déjà de loin. La forme de la bestiole n'est pas la même. La vipère pelliade est plus trapue, et puis elle a une queue courte, hein, parce que bon, même si les serpents, ce n'est pas qu'une queue, hein, ce n'est pas une tête et une queue, il y a une tête, un corps.
C'est un peu comme ça qu'on les voit.
Oui, il y a une queue. Et chez la pelliade, la queue est très courte. Et bon, tandis que la couleuvre, la couleuvre à collier, alors qu'elle s'appelle plus à collier maintenant, mais helvétique, mais l'ancienne couleuvre à collier, elle est, oui, sa taxonomie bouge chez les reptiles. Elle est plus longue, elle a un corps fin et effilé avec une queue très longue. Donc déjà de silhouette, on peut de loin remarquer des différences. Puis après de près, au niveau de la tête, notamment, là les différences sont encore plus nettes, avec une tête un peu triangulaire. Chez la vipère, plutôt ronde, chez la couleuvre. Beaucoup plus d'écailles sur la tête de la vipère que sur la couleuvre, qui a des grosses écailles, ça se voit. Hein, visuellement, ça fait des choses très différentes. Et puis aussi une pupille qui est fendue verticalement chez la vipère et qui est ronde chez la couleuvre.
Ça, c'est si on s'approche bien.
Un œil de vipère, on le remarque quoi, quand on voit la tête. Et puis, j'ai oublié, hein, mais même de loin, la vipère, elle a un dessin, un zigzag noir qui est très caractéristique sur le dessus.
Ah oui, alors la vipère pelliade en particulier, parce qu'elle est vraiment graphique, je trouve, cette vipère. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de quoi elle ressemble, en gros?
La vipère pelliade, elle fait 80 cm de longueur. Pour les plus grosses, la majorité d'entre elles sont plus petites et tournent autour de 50 cm.
C'est pas mal, enfin.
Ouais, c'est la taille des vipères, en fait.
Ouais.
Et les quatre vipères dont j'ai parlé au début sont approximativement la même taille. Et puis, donc elle a ce dessin en forme de zigzag noir sur le dessus, ce corps trapu, cette queue courte et cette pupille fendue verticalement, qui la sépare des autres serpents. En fait, la confusion, elle est plus souvent possible avec une autre couleuvre, mais une petite couleuvre qu'on a chez nous, qui s'appelle la coronelle lisse, et qui a des allures de vipère pelliade. Donc j'invite les auditeurs à aller voir tout ça sur Internet, en images, c'est beaucoup plus facile en discutant, mais voilà. Souvent, la confusion, elle est faite avec la coronelle plus qu'avec la couleuvre, en fait.
Et quand elle se déplace, la vipère péliade, elle est toujours entortillée un peu, enfin, elle ne se met pas toute droite, si
Non, oui, elle a tendance à s'étirer un peu pour s'insoler, parce que ça passe beaucoup de temps au soleil à récupérer de la chaleur. Mais Lucas va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai, quand elle se déplace, c'est la reptation, quoi. C'est le principe de la locomotion par reptation. Donc là, elle est comme les autres serpents, quoi. Vous voyez, elle se déplace comme ça, en se tortillant et en avançant petit à petit. Mais bien souvent, elle ne se déplace pas, ou en tout cas, elle se déplace peu, ça ne bouge pas beaucoup.
Les péliades, comme les serpents en général, ne font pas de bruit chez nous, hein. Il n'y a pas de... Un petit sifflement.
Ça peut produire un peu de son, un sifflement, ouais. Quand elle est embêtée, quand elle est un petit peu sur la défensive. Là, en général, quand elle commence à faire ça, ce n'est pas très bon signe, il vaut mieux reculer un peu. Ouais.
D'accord. Alors, cette péliade, donc, pourquoi d'ailleurs s'appelle-t-elle péliade ?
Eh bien, en fait, l'origine de ce mot péliade, elle est un peu double. C'est-à-dire que principalement, on pense que ça provient en grec de la lance d'Achille, dont la hampe en fait proviendrait justement du mont Pélion, donc qui aurait donné justement cette origine à ce mot péliade. Mais ça peut également vouloir dire, toujours de la racine grecque, sombre en grec, qui ferait donc référence à ces motifs très graphiques justement sur le dos, qui sont justement très sombres, très marqués, et donc à la couleur aussi générale de la vipère. Et on note aussi d'ailleurs que son nom latin, Vipera berus, berus en fait ça vient donc de la racine latine virus, donc véritable, parce que malgré le fait qu'elle soit en danger d'extinction dans pas mal d'endroits, c'est quand même une vipère qui avait une aire de répartition très très large quand même. Et donc ça fait référence à ce côté assez commun finalement.
Alors qu'est-ce qu'il lui faut pour vivre à cette vipère? Qu'est-ce qu'elle mange? Comment elle se reproduit, enfin...
Et bien pour vivre, déjà, comme l'a évoqué Stéphane tout à l'heure, c'est une espèce, comme tous les reptiles, qui a besoin de se mettre en insolation, parce qu'elle va régler en fait sa température corporelle en fonction de la température extérieure. Donc c'est pour ça qu'elle va avoir besoin de trouver des endroits qui lui permettent de vraiment récupérer de l'énergie au soleil, mais également voilà, des fois de se mettre plus à l'ombre pour pouvoir faire redescendre la température corporelle.
Ça, c'est ce qu'on appelle les animaux, c'est quoi? C'est homéotherme
Ectotherme,
pardon. Et c'est pas pareil que poikilotherme, c'est ça? Si, c'est pareil.
Ah, celui-là, je l'ai pas révisé avant de venir.
Moi, c'est celui que j'avais appris à l'école. C'est les animaux à sang froid. Enfin, ils ont aucune régulation interne, c'est ça?
Ouais, ils produisent pas de chaleur. Ouais.
D'accord. Ok. Bon. Alors, donc, il faut qu'elle se mette au soleil ou à l'ombre pour refroidir.
Tout à fait. Et donc, une fois qu'elle a pris des forces, elle peut se mettre en chasse. Et là, donc, elle va chasser très lentement, à l'affût. Et donc, une fois qu'elle a repéré une proie, elle va vraiment venir discrètement après d'elle, se mettre à distance. Et elle va élancer sa tête pour pouvoir, en fait, mordre sa proie avec ses crochets venimeux. Donc, qui vont lui servir déjà à neutraliser la proie dans un premier temps. Et ça va également l'aider pour la digestion, parce que ça va disséquer un petit peu les tissus. Et les cellules sanguines donc, qui se trouvent dans l'animal.
Ouais, parce qu'elle ne mâche pas, en fait.
Non. elle avale tout rond, et donc elle va digérer l'animal. Donc une digestion qui peut prendre quand même un certain temps.
Mais le venin, il tue l'animal, il tue la proie, il ne la paralyse pas. Enfin, c'est...
Oui, il l'a, oui, oui, quand je dis neutralisé, il la tue. Bon, et après, donc, ça l'aide pour la digestion. Et donc, ces proies en question, c'est principalement des micro-mammifères. Donc, voilà, des campagnols, des musaraignes, des mulots. Mais ça peut être aussi occasionnellement des amphibiens, des petits reptiles, des oisillons. Notamment, par exemple, les jeunes chez les vipères péliades sont spécialisés dans la chasse des lézards, notamment le lézard vivipare, qui en fait partage un petit peu son aire de répartition, qui a besoin des mêmes conditions d'habitat. Et donc
elles sont carnivores, en fait, les vipères péliades, quoi. Oui. Elles mangent pas de légumes, ça c'est
non,
sûr.
Ça c'est sûr.
Et est-ce qu'on voit, quand une vipère a mangé, c'est un peu l'image de dessin animé qu'on a, est-ce qu'on voit la proie au travers de son ventre? Est-ce qu'il y a un relief? On ne sait pas, vous ne savez pas.
Je pense qu'on devrait pouvoir l'observer. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que oui, ça doit être possible. Mais pas longtemps, ça mange des petites proies quand même, hein. Ça mange pas de lapin, quoi. Ça mange,
oui, bien sûr.
Voilà. Ouais. On est plutôt dans le micro-mammifère, là. Donc,
Et ça a quand même des intestins, c'est pas seulement un estomac qui dissout. C'est...
Ah non, ouais. Ouais. Ah oui.
Il y a un vrai système digestif complet.
C'est un vertébré, hein, donc.
Oui.
Et donc après vient la reproduction, donc en avril-mai, il y a une seule période de reproduction. Et alors, à la base, la vipère pelliate, c'est un animal qui est quand même assez sédentaire, assez fidèle à son territoire. Là, les mâles, ils vont se mettre en quête du coup d'une ou de plusieurs femelles, d'ailleurs.
Et c'est quoi un territoire de vipère pelliate, en gros? Ça fait quelle surface, à peu près?
Ah, pour une vipère gestante, ça peut être un coin de talus, quoi.
Ah oui, mais pour le mâle qui part chercher une femelle, c'est quoi? Ça va, il va jusqu'où
Les mâles, les jeunes mâles se dispersent plus. C'est là où en fait elle est où l'espèce peut conquérir de nouveaux territoires. C'est à ce moment-là en fait. C'est les jeunes individus qui se dispersent. Mais c'est très variable en fait selon justement le l'habitat général, l'environnement. Mais ça va de 1 à plusieurs dizaines d'hectares, on peut dire. En déplacement, oui, mais c'est une période dans l'année, mais sinon le reste du temps, c'est quand même une espèce qui est très 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 territoriale pour le coup.
Et alors Lucas, quand le mâle a trouvé une femelle ou vice-versa, comment ça se passe?
Alors ça peut être assez spectaculaire, parce que comme la plupart des serpents en fait, les vipères pelliates, quand elles vont trouver leur partenaire, elles vont s'enrouler donc l'une autour de l'autre, et en fait pour que la fécondation puisse se faire, il faut donc que le pénis de la vipère pelliate puisse être en contact avec le cloaque de la femelle, sauf qu'en s'enroulant comme ça, on n'anticipe pas forcément où est-ce que va finir quoi. Et donc la vipère pelliate, elle a une particularité, c'est qu'elle possède deux pénis de chaque côté du cou de son corps, ce qui lui permet en fait, quand elle s'enroule, de pouvoir tomber juste, on va dire, à chaque fois.
C'est plus pratique
et de pouvoir donc féconder la femelle.
Il n'y a pas de paranuptial avant, est-ce qu'on en sait quelque chose là-dessus?
Je crois qu'il y a quelques parades, c'est-à-dire qu'il y a des scènes un peu de séduction et d'entrelacement où les deux individus de sexe opposé se s'enroulent et ça rejoint un peu ce que vient de dire Lucas, c'est qu'en fait comme ils s'enroulent jamais dans le même sens, c'est bien d'avoir un pénis de chaque côté quoi. Mais et je pense même que cette phase d'approche, on va dire avant l'accouplement, peut durer plusieurs jours quoi. Mm-hmm.
Et l'accouplement lui-même, il dure pas spécialement longtemps, non? C'est pas comme les escargots, vous durent des jours aussi.
L'accouplement lui-même, j'en sais trop rien, à vrai dire, mais je pense pas que ça doit durer très très longtemps, non. Parce qu'après, la femelle s'accouple aussi avec d'autres mâles.
Ah, ouais.
Quelquefois, le mâle, après l'accouplement, il reste à côté de la femelle pour être sûr qu'elle ne va pas le faire. Mais en fait, quand les vipéraux sortent du cloaque à la naissance, ils sont pas forcément.
Elles pondent pas d'œufs, elles pondent pas d'œufs, enfin, c'est ça.
Elle met bas en fait directement des petits vipéraux qui sont déjà formés d'à peu près une dizaine de centimètres, entre 5 et 10 vipéraux à peu près.
Et ça s'appelle
et qui n'ont pas tous le même père en fait, c'est ça que je voulais dire,
d'accord.
Forcément.
Ah ouais, ok. Et ça s'appelle comment ce mode de reproduction? C'est pas un mammifère, hein, bien sûr, cette gestation.
Si, là on est dans de la viviparité pure et dure comme nous. Y a les jeunes vipéraux se développent dans le système utérin de l'adulte, et il y a des échanges gazeux, trophiques, etc., entre la mère et ses jeunes. Quoi.
Ah ouais, donc la différence, c'est qu'il n'y a pas d'allaitement, quoi, en fait. C'est ça.
Ah là, non. Non.
Sinon, ça serait un mammifère.
Après, ils sont autonomes et ils se débrouillent, ouais.
Et combien de temps, la gestation, en gros
La gestation, en gros, la reproduction va se passer à peu près entre avril et mai. Et la mise à bas, en fait, elle arrive en général fin août, début septembre, selon les températures, parce que, encore une fois, vu que la vipère pelliate est très dépendante des températures, en général, sur une même région, ça va être très synchronisé, c'est-à-dire que quand va commencer à y avoir les premières mises à bas, ça va se faire assez simultanément. Et donc, on va dire la gestation.
Après les seins de glace, quoi, en gros, c'est ça.
Ouais. Ah, c'est ça.
C'est 2-3 mois, quoi.
Ouais. D'accord. Et combien, alors la portée, c'est combien de vipéraux, en gros?
Environ 7, on va dire entre 5 et 10. C'est un petit peu variable.
Et on sait quel est le taux de survie de ces petits? Quels sont leurs prédateurs?
Ah bah, il est faible chez les jeunes, quoi. Ça, c'est clair. Après, une fois que la bestiole, elle a atteint l'âge adulte, elle a plus de chances, le taux de survie, il augmente en flèche. Une femelle de de 15 ans et de 80 cm, il n'y a pas grand monde à l'embêter. Et en ce qui concerne...
Mais les petits, ouais, ils sont mangés par qui alors?
Bah, les petits, ils sont mangés par, par les oiseaux de proie de façon générale. Et il y a même un spécialiste, qui est le circaète Jean Leblanc, qui consomme que des reptiles et qu'on voit de temps en temps sur les crêtes des monts d'Arrée. Et puis, il y a aussi des mammifères. Le renard, il peut, de façon opportuniste, il peut manger un vipéro. Le sanglier aussi, ça peut lui arriver. Le hérisson peut lui arriver. Puis il y a différents oiseaux qui aussi peuvent...
Les consommer, de terre, en
des
fait,
corvidés,
quoi.
Ouais, des corvidés, les poules, voilà, ouais. Donc les faisans, enfin bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de prédateurs. Il y a même certains cas où il y a eu des attaques de vipéraux par des mantes religieuses. Donc voilà.
Ah oui.
Ouais, d'autres reptiles, des amphibiens aussi, une grosse grenouille verte peut s'attaquer. Un petit vipéro, enfin bon voilà, il y a une gamme quand même de... Et d'ailleurs, les prédateurs des jeunes peuvent devenir les proies des adultes, quoi.
Et il n'y a pas de nid, donc les vipéros, à peine nés, ils se débrouillent, quoi, c'est ça,
oui.
En fait, en gros. Oui,
oui, ouais. Ils muent.
Et ah puis, oui, tout de suite.
Ouais, puis après, ils sont autonomes, quoi.
Et ils vont muer combien de fois dans leur vie, en gros, les vipères pléiades, elles vont muer combien de fois?
Je pense que ça, là encore, ça doit dépendre de pas mal de facteurs variables, mais environnementaux et variables. Mais globalement, ça mue 2 à 3 fois par an, quoi.
Et ça vit combien de temps potentiellement?
Et ça vit une trentaine d'années pour les plus vieux, pour les individus les plus vieux. Donc ça, voilà. En fait, la vipère ne cesse jamais de grandir, quoi. Et donc elle mue toute sa vie, quoi.
Et alors, j'ai dans l'idée, mais c'est sans doute faux, que la vipère a besoin d'un milieu humide. Enfin, ça, je pense que... pour moi, c'était ensoleillé et humide, mais en fait, c'est peut-être pas vrai.
C'est pas faux non plus. c'est assez proche, finalement, de sa réalité. Ce sont des milieux frais, en fait. C'est vraiment une espèce de milieu frais. Et donc, sa répartition globale nous le raconte assez bien. Hein. Au sud de la Loire et au sud de la France, en zone méditerranéenne, elle est remplacée par d'autres espèces, elle n'est pas présente,
il
fait trop chaud.
Ouais.
C'est vraiment une espèce d'affinité climatique froide, quoi. Et ben, par contre, c'est le seul serpent à aller au-delà du cercle arctique.
Ah oui, mais donc l'hiver, en fait, elle n'hiberne pas, enfin, elle ne se met pas en pause quand il fait vraiment trop froid et qu'elle ne peut plus se réchauffer au soleil
Si, elle hiberne.
Ah ouais.
Elle hiberne, mais on peut une belle journée de février avec du rayon de soleil qui tape en littoral, on peut voir sortir une vipère, quoi. C'est pas voilà, elle est en capacité aussi de se réveiller en plein hiver, d'aller faire un tour et de revenir continuer son hibernation, de la reprendre.
Et elle a un terrier pour hiberner, enfin est-ce qu'elle se creuse des galeries
Elle se creuse pas des galeries, mais elle utilise des galeries de micro-mammifères aussi et tout en fractuosité où la température est à peu près stable sans gel lui convient, ouais.
Alors là, ouais, on en est arrivé un petit peu en fait à son écologie, quoi, sur qu'est-ce qu'elle a besoin, ouais, son habitat. On peut continuer, je sais pas,
oui.
Si on a tout dit.
Plusieurs émissions ne suffiraient pas à tout dire.
C'est pas grave, on a encore un petit peu de temps. Allons-y.
En fait, c'est, comme tu disais, donc une espèce de milieu plutôt frais et humide. Donc son habitat préférentiel dans le Finistère, en tout cas, c'est le bocage et puis les landes, quoi. Mais encore faut-il que ce bocage ou que ces landes soient dans un état de conservation qui continue à être accueillant pour l'espèce. C'est-à-dire que c'est plutôt une espèce d'interface, de lisière. Voilà, elle ne va pas forcément être au cœur des massifs boisés, elle ne va pas être au cœur des prairies, elle va plutôt être à l'interface entre les deux.
On appelle les écotones.
Voilà.
Ah bon, on va donner un peu de vocabulaire.
Oui. Je l'avais oublié aussi celui-là. Et enfin, en tout cas, elle est présente uniquement sur ces zones-là. Enfin, majoritairement, hein, parce que bon, quand elle se déplace, elle peut traverser une route, etc. Mais voilà,
bah, elle se déplace peu, elle n'a pas forcément.
Voilà. Voilà. Mais du coup, n'importe quelle haie ne fait pas l'affaire non plus, quoi. Donc, il faut qu'elle soit, que la haie soit orientée au soleil. Voilà. Donc, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, pour qu'elle puisse s'insoler. Et donc, c'est des haies qui sont plutôt au sud, au sud-est, au sud-ouest, enfin voilà, plutôt sud. Et puis, il faut que ce soit une haie bocagère aussi qui soit riche en micro-mammifères pour qu'elle ait des proies. Et puis aussi, il faut qu'il y ait un ourlet herbacé, on va dire, qui reste un peu en place entre la zone de prairie et la zone de haie pour avoir des places d'insolation. À proximité de fourrés denses où elle peut se réfugier rapidement en cas de danger. Ça veut dire que par exemple une haie de cyprès avec uniquement des arbres et puis un tapis de litière, ça lui convient pas du tout parce qu'elle reste visible.
Ouais, il faut des fourrés, quoi. Vraiment.
Donc il faut des fourrés denses avec tous les étages, en fait, toutes les strates présentes. Voilà, donc globalement, en fait, elle souffre énormément de ça en Bretagne. C'est de l'altération de ces haies, de la disparition de ces habitats, parce que le bocage, il s'intensifie, il tourne plus vers un open field qu'un bocage un peu avec des petites parcelles. Enfin bon, voilà, tout ça. Tout ouais, ça fait que c'est une espèce qui est très menacée.
Oui, c'est ça. Et donc, on sait de combien elle a régressé. Enfin, est-ce qu'il y a des endroits dont elle a complètement disparu, des départements, enfin, je sais pas.
On commence à le voir, ouais. Ce que disait Lucas tout à l'heure, c'est qu'à l'échelle de la planète, quand on regarde, eh ben, on se dit, ouais, il y en a partout. Et effectivement, c'est le serpent de la planète qui a la plus large distribution, en fait, qui va de l'Atlantique au Pacifique, quoi. Et par contre, quand on commence à zoomer, ben, on se rend compte qu'il y a que la répartition, elle est mitée, parce qu'il y a plein d'endroits d'où elle a disparu. Et puis, quand on arrive à l'échelle de la France, il y a plus que trois régions qui l'accueillent avec des populations suffisante, on va dire, pour la pérennité de l'espèce. Et c'est la Bretagne, la Normandie et le Massif central. Voilà. Et en dehors, elle reste très très localisée, voire elle a disparu complètement. Elle a disparu des Flandres, notamment, dans l'est de la France, c'est pas terrible. Voilà. Et du coup, et puis là, on se rend compte aussi que, notamment pour ces populations normandes et bretonnes, et ben les cartes nous montrent que la fragmentation devient visible, quoi, et que du coup, elle est là encore très menacée.
Donc la conserver, c'est restaurer le bocage, préserver, ouais. Et restaurer le bocage. En fait, c'est en gros.
Oui. C'est ce qu'il faut faire. Et puis lutter contre le réchauffement climatique, parce que ça aussi, elle aime pas beaucoup.
Ah oui.
Parce que de la chaleur.
Bah oui, voilà, c'est une espèce qui a un métabolisme assez élevé, finalement, à faible température, quoi. Et c'est une machine de haute précision. Donc dès que les températures montent, elle est plus du tout adaptée pour survivre, et elle est remplacée par la vipère à spic. Mm-hmm. En schématisant.
Ouais, bien sûr, d'accord. Et évidemment, on n'a absolument pas le droit de la chasser, j'imagine que c'est très protégé.
Oui, mais bien c'est sûr. Protégé intégralement depuis pas longtemps. Hein.
Alors, ah oui, ah bon, depuis quand?
Depuis l'année dernière, ou il y a deux ans, il me semble. Hein, c'est seulement avant, elle était protégée, mais partiellement. C'est-à-dire qu'on avait le droit, on n'avait pas le droit de la prendre, on n'avait pas le droit de la manipuler, on n'avait pas le droit de la transporter, on n'avait pas le droit de la vendre, on n'avait pas le droit de l'exhiber, mais on avait le droit de la tuer.
Non.
Voilà.
Et,
ouais. Mais là, maintenant, depuis la fin de l'année dernière, il me semble, où c'était passé 2020, ouais, je crois que c'est 2020. Enfin, peu importe. Enfin, depuis tout récemment, on n'a pas le droit de la, on n'a plus le droit de la tuer non plus.
Et donc, évidemment, quand on pense à vipère, on pense à venin. Alors, on se dit, est-ce que c'est dangereux, la vipère Pelliade en particulier, Lucas?
Eh bien, en effet, c'est un serpent qui est venimeux. Après, dangereux, c'est un mot quand même à prendre avec des pincettes, parce que c'est un serpent qui, de base, est quand même assez craintif, qui, de toute façon, ne va absolument pas être agressif avec les grands animaux, qui en a même peur, d'ailleurs. Et en fait, tant qu'on va rester à une certaine distance de la vipère, elle sera en fait complètement inoffensive. En général, on prend la taille de la vipère et on fait la différence avec notre distance à nous, donc on essaie de rester à peu près à la même distance. Et à partir de ce moment-là, elle ne se sentira pas en danger. Par contre, dans des cas où elle se sent acculée, dans des cas où elle se sent prise au piège, ou encore tout simplement si vous marchez sur sa queue, par exemple.
Sans faire exprès, bien sûr.
Sans faire exprès, bien évidemment. Là, elle pourra mordre, Mais il existe quand même quelques gestes assez simples à faire dans les milieux où elle peut potentiellement être, pour éviter justement de, d'être mordue. Donc par exemple, se promener avec des chaussures montantes, des grosses chaussures montantes. Également, la vipère, elle est sourde, par contre, elle ressent très très bien les vibrations, donc ne
taper
pas hésiter
pied,
exactement, à taper du pied, à prendre un bâton de, pour pouvoir taper le sol quelques fois en marchant. Elle sentira les vibrations, elle aura le temps du coup de prendre ses jambes à son cou avant de se sentir en danger. Après, il est important aussi de rappeler que, en fait, on va dire, il n'y a pas de statistiques extrêmement précises là-dessus, mais à peu près 3 ou 4 cas sur 5, la plupart du temps, la vipère, quand elle va mordre, elle ne va pas injecter de venin. Je ne parle pas vraiment au niveau des proies, mais vraiment au niveau de la défense, donc par exemple envers nous. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle la morsure blanche, la plupart du temps, où le venin n'a pas été injecté. Donc là, il faut surveiller, donc il risque d'y avoir un petit œdème. Et en fait, quand, tant qu'il ne prend pas d'ampleur, en général, c'est qu'il n'y a pas eu de venin, et dans ce cas-là,
il faut quand même désinfecter, quoi.
Il faut désinfecter, on passe bien sous l'eau, on surveille bien sûr, mais en général, il n'y a pas de grand danger. Dans de rares cas, la morsure peut être venimeuse, mais c'est vraiment plus occasionnel. Et si jamais c'est le cas, bien sûr, ne pas s'exciter, rester bien calme pour la circulation, ne pas tenter de faire de garrot, ce genre de choses, et bien sûr, prévenir les secours. Quand ça arrive, parce que c'est quand même assez
c'est rare. Hyper rare, j'imagine. Ouais.
Ouais, pour compléter ce que dit Lucas, dans l'Observatoire herpétologique de Bretagne, on a disposé des, on a mis en place des protocoles en fait pour suivre les populations de reptiles. Et il y a une trentaine de sites comme ça, même plus, qui sont équipés à l'échelle de la Bretagne où on met des plaques et puis on des plaques en caoutchouc en fait où les bestioles vont se réfugier dessous et on les soulève pour voir ce qu'il y a dessous. Donc des fois c'est des couleuvres, des fois des orvées, des fois des lézards, des fois des vipères péliades. Et moi j'en suis et mes collègues aussi, et on a j'ai jamais eu on m'a jamais raconté une anecdote où la vipère repère le saute sur le naturaliste qui vient soulever la plaque, et voilà, en général elles restent peinardes, elles sortent leur langue là pour un peu sans sentir l'environnement, et puis elle repart tranquillement, quoi. Mm-hmm. C'est absolument pas agressif, quoi.
Très bien, nous voilà rassurés, merci. Alors on pourra réécouter cette émission bien sûr sur le site de Radio Évasion, puis on retrouvera Bretagne Vivante pour de la botanique cette fois, ce sera avec Luc Guillard et ce sera le 12 mai.